Merci Denis Astagnaud et nous sommes aujourd'hui en direct et en public des rendez-vous de l'histoire de Blois avec une épopée qui a bouleversé l'histoire des États-Unis, la ruée vers l'or. Même si les mines de Californie ne produisent que la moitié des estimations, elles vont révolutionner la situation commerciale et financière du monde. James Gordon Bennett, New York Herald, janvier 1849. D'histoire. Tout a commencé le 24 janvier 1848. Ce jour-là, un charpentier de 35 ans, originaire du Missouri, James Marshall, aperçoit quelque chose de brillant dans le canal de dérivation d'une scierie perdue quelque part au fond d'une forêt de Californie. Il s'en empare et découvre que c'est de l'or. Avec le propriétaire du terrain, John Sutter, Marshall décide de n'en rien dire à personne, mais la nouvelle arrive à San Francisco et de là se répand en quelques semaines dans tous les États-Unis, dont le président James Polk annonce au Congrès la découverte de Marshall. Il n'en fallait pas plus pour provoquer une ruée vers l'or qui allait bouleverser l'histoire du pays. L'arrivée en Californie de centaines de milliers d'hommes et de femmes venus du monde entier pour tenter de faire fortune dans un État qui allait devenir un jour, grâce à eux, le plus riche et le plus peuplé des États-Unis.
On est riche. Oui, on est riche. Même très riche. C'est ce que Steve a dit. Il a dit qu'on était très riche. Il a même dit qu'on était riche comme Crésus.
Non ! Non ! La casse ça !
Allons-y !
Allez, donne dedans ! Mettons-en !
Hé, attendez-moi !
C'était des rois. Les pionniers, ils n'ont pas eu peur de s'aventurer ici. À partir de rien, ils ont construit des villes et ils ont régné comme des rois.
Annick Faucrier, bonjour.
Bonjour, Patrice Gélinet.
Vous êtes professeur à Paris 1, chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales et vous faites partie des très nombreux historiens qui sont ici au rendez-vous de l'histoire à Blois et avec un livre, Le rêve californien, l'histoire des migrants français venus sur la côte du Pacifique, car il y avait en effet des Français, parmi les chercheurs d'or qui sont venus faire fortune en Californie au milieu du 19e siècle, et cela dans un pays dont on oublie qu'à l'époque où on y a découvert de l'or, il appartenait encore, ou il était en train d'appartenir aux États-Unis, mais il était encore mexicain, et on y a découvert au fond de l'or, mais un mois avant que la Californie soit annexée aux États-Unis.
Oui, c'est le 2 février 1848 que par le traité de Guadalupe Hidalgo, la Californie et aussi tous les territoires qui sont actuellement ceux du sud-ouest des États-Unis sont annexés par les États-Unis. Auparavant, c'était un territoire mexicain. Le Mexique a perdu à cette occasion-là la moitié de son territoire. Et donc,
Et de l'or sans le savoir.
Il faut se rappeler que les Espagnols avaient cherché de l'or, justement, tout le temps. Les fameuses 7 cités de Cibola, les explorateurs qui étaient montés vers le nord depuis Mexico. Et les Espagnols avaient commencé à s'installer en Californie à partir de 1769. Donc 1769, c'est ce qu'on appelle l'expédition sacrée. Et Junipero Serra, Gaspar de Portola. Et donc, petit à petit, ils vont construire en Californie, d'une part, des missions. La mission de San Diego étant la première, et puis d'autre part, des présidios qui sont des forts militaires et aussi quelques pueblos.
Alors dans un pays qui s'appelle la Californie, grâce à un auteur du XVIe siècle, un portugais qui s'appelait Garcia Ordonez de Montalvo, et c'est lui qui a donné son nom à la Californie. C'est assez étonnant, expliquez-nous comment.
Alors en fait, c'est la Californie a un nom avant même d'être découverte. C'est-à-dire que c'est un roman de chevalerie qui était extrêmement célèbre à l'époque, qui s'appelait les exploits d'Explandian. Hein. C'était la suite d'une grande saga, la saga d'Amaurice de Gaulle. Et donc son fils, qui s'appelait Esplandian, avait été à Constantinople. Et là, à Constantinople, dans le roman de chevalerie, hein, à Constantinople, il était enfermé dans Constantinople et des Amazones étaient venues attaquer Constantinople, justement pour se mesurer avec ces fameux chevaliers d'Occident. Et la reine de ces Amazones s'appelait Calaphia. Et elle venait d'une île qui était à la droite du paradis terrestre, et cette île s'appelait California. Et donc, en fait, ce qui s'est passé,
et cette île, il y avait des rochers qui étaient en or, en fait.
Et oui, c'est-à-dire toutes les armes de ces femmes étaient en or. Il y avait des griffons. C'était une île extrêmement dangereuse. Et lorsque donc les conquistadors espagnols sont arrivés, ils ont traversé le Mexique et qu'ils sont arrivés devant ce qu'ils croyaient être une île à l'époque, c'est-à-dire ce qui est maintenant la Basse-Californie, eh bien, ils ont tout de suite pensé à cela et ils l'ont appelée Californie.
Alors, c'est un territoire mexicain jusqu'à son territoire mexicain très peu peuplé. Hein. Il faut rappeler ce que c'était. Je crois que San Francisco, c'était un village. Il y avait à peine, même pas 400 personnes.
La capitale était Monterrey. Ouais. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y avait relativement, en effet, peu de personnes, mais il ne faudrait pas croire quand même que c'était une terre où il n'y avait personne. Il y avait toute une organisation politique qui préexistait avant l'arrivée des Américains.
Il y avait 650 000 Indiens, hein, c'est
absolument
la majeure partie de la population, mais 15 000 immigrants.
Non, c'était 15 000 personnes d'origine d'origine européenne, qui étaient beaucoup de métis. Hein. C'était il y avait d'une part des Mexicains qui étaient remontés effectivement du sud, et puis il y avait aussi effectivement différents immigrants, des Américains, des Français, des gens venus un peu partout.
Et les États-Unis, donc l'annexe en février 1848, c'est-à-dire à peine 15 jours après la découverte de l'or, tout à fait par hasard et par un charpentier, je crois, qui s'appelait James Marshall. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Il a découvert ça vraiment tout à fait par hasard. Il cherchait pas de l'or.
Non, absolument pas. En fait, il avait, c'était le charpentier qui travaillait pour Johannes Sutter. Johannes Sutter était un Suisse germanophone et il se trouvait à Fort Sutter, se trouvait exactement là où maintenant est Sacramento. Et on peut encore le visiter. Et il y avait des caravanes qui passaient depuis 1844, il y avait quelques caravanes qui traversaient les montagnes rocheuses, et Sutter avait eu l'idée de faire fortune en leur fournissant des maisons et donc du bois de construction. Donc il avait fait implanter une scierie sur un territoire immense qu'il avait obtenu en concession du gouvernement mexicain, et c'est sur cette scierie que un charpentier qui avait été un migrant, qui est arrivé comme ça, James Marshall, la scierie ne fonctionnait pas suffisamment bien, il avait envoyé beaucoup d'eau, et là, un matin, en regardant, qu'est-ce qu'il voit ? Des choses qui brillent, et donc ce sont des pépites d'or.
Et alors, ce James Marshall dit ça à Sutter, les deux hommes décident de se taire, ils sont d'ailleurs dans un endroit qui s'appelle Fort Sutter, qui est devenu Sacramento, sur la rivière Sacramento. Voilà. Alors, ils gardent le secret, mais très vite, ça se répand, d'abord à San Francisco, de là, dans le reste des États-Unis, jusqu'à Washington, dont le président, dont tout le monde a oublié le nom, qui s'appelait à l'époque James Polk, fait part au Congrès de la découverte de Marshall, et puis alors, c'est la ruée vers l'or, qui commence en 1849, l'arrivée de centaines de milliers de chercheurs qu'on appelait les 49ers, les 49ers en quelque sorte, venus du monde entier par la mer jusqu'à San Francisco ou à travers le continent américain par la terre.
Attention ! La diligence arrive. Par ici. Bonjour messieurs, vous allez remettre vos armes. C'est la loi dans cette ville. C'est comme ça.
Je vous défends, c'est-à-dire ces armes.
Alors je vous défends de mettre un pied sur notre sol.
J'ai besoin d'un coup de main.
Dis-moi, les filles.
Allez, aidez-moi, je vais se harnais.
Écartez-vous. Portez les bagages de ces dames à l'intérieur.
Tu as entendu, maman ?
Qu'est-ce qui vous amène ici, à Kingdom Come ?
Nous venons rendre visite à un parent. Il y a d'habitants ici.
À peu près 1200. Je vais attendre vos bagages ici.
Je vous remercie.
Allez, les gars.
When formed our band, we are well manned to journey afar to the promised land. The golden ore is rich in store on the banks of the Sacramento shore. Then ho, boys, ho, for California-o. There's plenty of gold, so I've been told, on the banks of the Sacramento. As we explore to the distant shore, filling our pockets with a shining ore, how it will sound as the shout goes round, filling our pockets with a dozen pounds. Then ho, boys, ho, to California, oh, there's plenty of gold, so I've been told, on the banks of the Sacramento. gold is there most anywhere. We dig it out rich with an iron bar. But where it is thick with spade or pick, we take out chunks as big as a brick. And ho, boys, ho, to California. There's plenty of gold, so I've been told, on the banks of the Sacramento. And ho, boys, ho, to California. There's plenty of gold, so I've been told, on the banks of the Sacramento.
Oh les gars, en Californie, il y a plein d'or à ce qu'on dit sur les rives du Sacramento, une chanson de la ruée vers l'or qui empruntait des routes difficiles, hein, vous le rappelez, Annick, vous criez dans votre livre, à l'époque, il n'y avait pas de train encore, et encore moins d'avions, et la première épreuve des chercheurs d'or, c'était au fond le trajet qui les conduisait en Californie, il y avait aussi la mer surtout au début, hein, la plupart d'entre eux passaient par la mer, alors là c'était vraiment un périple incroyable.
Mais c'est-à-dire il faut aller autour du Cap Horn.
Il n'y a pas de canal de Panama.
Non, c'est beaucoup plus tard. Il y a un trajet par, effectivement, l'isthme de Panama, mais le principal trajet, c'est quand même celui qui se fait par des navires qui sont des navires à voile, donc qui sont sujets évidemment au vent, et qui passent autour du Cap Horn avec tout autour du continent, et aussi avec les glaces du Cap Horn. Ils mettent en moyenne 6 mois. Ça va entre 4 et 8 mois. Il y a ensuite eu les Clippers, qui étaient là les lévriers des mers et qui allaient beaucoup plus vite. Le Flying Clouds l'a fait, 89 jours. Mais dans l'ensemble, c'est très, très, très long.
Alors, ils arrivaient à San Francisco et là, les passagers, évidemment, s'en allaient. Mais même l'équipage,
les marins désertés.
Si bien que San Francisco, c'est devenu un port d'un cimetière de navires. Ils repartaient jamais.
Il y en a, il y a eu quand même quelques navires qui sont repartis, mais d'autres ont été reconvertis, utilisés comme magasins, éventuellement comme hôtels et même comme prison.
Alors il y avait aussi la route terrestre, elle était plus courte, mais elle était encore plus dangereuse.
Elle était effectivement plus dangereuse, c'est tout de même à peu près 3500 kilomètres, et ça ce sont plutôt ceux qui prennent la route, ce sont ceux qui viennent en fait de Saint-Louis, près de Saint-Louis, Independence, et qui traversent, et alors là c'est extrêmement difficile parce qu'ils doivent traverser les grandes plaines, ils doivent traverser le désert américain, les montagnes rocheuses, et c'est la route est jalonnée par tous les objets qui sont abandonnés, il y a le choléra. Finalement, les Indiens ne sont pas les plus dangereux. Loin de là. Ce qui est très dangereux, c'est les conflits qu'il peut y avoir entre les différentes personnes. S'ils ont aussi l'intention de prendre un raccourci en se fiant à des livres qui ont été publiés à l'époque et qui, en fait, les mènent vers des mauvais chemins, il faut bien se rappeler qu'on ne connaît pas à l'époque bien toutes les passes. Donc, c'est très, très, très dangereux. Et beaucoup meurent, il y a un taux de mortalité très élevé.
Et tout ça pour faire fortune, ou espérer en tout cas faire fortune, dans les concessions d'or.
Je cherche un guide pour me conduire à la concession de mon père. Mon père m'a envoyé ses plans avant de mourir. Et il m'a envoyé autre chose. Il m'a envoyé de l'or. Il y avait de la poussière d'or dans l'enveloppe. Si vous m'emmenez à la concession, je vous donne un pourcentage. Qu'est-ce qui vous fait rire?
Tout le monde trouve un peu de poussière d'or. Ça encourage à persévérer. Mais il faut tomber sur un filon.
Tu fais équipe avec nous?
Ouais, j'en serais très heureux.
Non.
Non?
Amène les chiens! Ou bien il sait qu'il y a de l'or là-bas et il refuse de me donner ma part.
Ah, doucement. T'es en train d'arnacher le mauvais chien, comme on dit.
De toute façon, si vous refusez de m'emmener, j'irai par mes propres moyens. Et je ferai fortune par mes propres moyens.
Alors tout le monde n'a pas fait fortune, on le sait. Comment ça se passait la prospection de l'or? On arrive donc à San Francisco, on va vers le Sacramento et les rivières qui charrient de l'or. Mais comment est-ce que ça se passait? D'abord, l'outillage était assez frustrant.
Très rudimentaire, oui. En fait, beaucoup croyaient qu'en arrivant à San Francisco, ils seraient près des mines. Alors qu'en fait, ils avaient encore un très long trajet. Ils devaient aller jusqu'à soit Stockton, soit Sacramento, et ensuite seulement ils pouvaient arriver vers les montagnes, parce que c'est par là que sont les rivières qui charriaient justement de l'or. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent à plusieurs. En général, ils sont un petit groupe, avec une mule, de quoi transporter un peu leur matériel. Et puis ils entendent parler de tel ou tel endroit où on a trouvé de l'or. Par exemple, Mokelumne Hill, qui est un endroit où on avait trouvé beaucoup. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent et ils repèrent un endroit qui les intéresse. Donc, ils s'installent. Les droits de propriété sont très différents de ce que ça pouvait être n'importe où ailleurs. Ils s'y installent et ensuite, éventuellement, ils vont faire enregistrer ce que l'on appelle un claim, c'est-à-dire le fait d'une concession. Et là, ils, en général, s'ils le peuvent, c'est près de la rivière parce que la rivière joue un rôle important pour laver l'or. Donc, ils ont une espèce de ce qu'on appelle la battée, qui est une sorte de poêle sans manche, et ils mettent dedans de la terre, la terre aurifère, et là ils lavent, et comme l'or est plus lourd, eh bien en fait en impulsant un mouvement et en faisant partir petit à petit le sable plus léger, ce qui reste avec un peu de chance au fond, c'est de l'or.
Alors combien de chercheurs d'or sont arrivés comme ça en Californie? Parce que vous citez un chiffre qui est quand même impressionnant, ça s'est passé en très peu de temps, une dizaine d'années, hein, ça n'a pas duré très longtemps.
Même moins, la grande période des chercheurs d'or, c'est donc les premiers arrivent vraiment. La grande masse, c'est 49, 49, 50, 51. Après, ça commence à décliner et il y en a beaucoup qui repartent. Et puis ensuite, la grande période du mineur, tel qu'on l'imagine, hein, le mineur artisanal, c'est cette période-là. Ensuite, l'or qui était sur la surface et qu'on appelait les placères, hein, cet or-là a été ramassé et par conséquent, il faut creuser, il faut beaucoup plus d'investissement et là, ce sont les sociétés.
Et puis alors, il y aura d'autres mines plus tard, après la Californie, il y aura le Nevada, il y aura les Black Hills, il y aura l'Alaska, mais ça c'est un peu après. Là, on parle des 49ers, ceux qui sont venus en Californie. Ils venaient de partout, hein. Dans votre livre, vous insistez évidemment, parce que c'est le sujet, sur des Français, il y avait même des Français.
Mais il y avait aussi, et beaucoup de Français, en fait, les Français sont arrivés assez rapidement et très très nombreux, parce que ils avaient des intérêts à cela. Et les 49ers, les chercheurs d'or viennent réellement du monde entier, c'est-à-dire qu'ils viennent non seulement, les premiers qui arrivent, ce sont ceux qui arrivent de Hawaï, mais il y en a qui arrivent aussi d'Amérique latine, des Mexicains, des Chiliens. Il y en a aussi beaucoup qui arrivent donc d'Europe. C'est une époque, il ne faut pas oublier, c'est l'époque de 48, où il y a eu les troubles politiques, les difficultés économiques, et un certain nombre pensent ainsi pouvoir améliorer leur situation, outre ceux qui veulent fuir une situation un peu difficile. Donc ils viennent vraiment de partout, et évidemment aussi d'Asie. Il y a beaucoup de Chinois qui arrivent.
Et trouveront moins d'or que prévu, et dans des villes où les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les mauvais garçons.
Moi, Harry Graves, de la concession de Rothwood, a été reconnu coupable en ce 30 novembre 1867 d'avoir profité de l'état d'ivresse de Monsieur Delaney pour lui voler une bourse pleine de pépites d'or pendant son sommeil.
La peine habituelle est de 50 coups de fouet.
Allez !
D'où vous venez ?
De Dublin.
Et toi ?
De Pologne.
Vous avez trouvé quelque chose ?
Il n'y a pas d'or en Amérique. Il n'y a pas plus d'or que d'éléphants.
On y perd ses illusions. Même si on tombe sur un filon, le cœur s'éteint.
T'en as beaucoup ?
J'en veux plus d'or. C'est une femme qu'il me faut.
In the cavern. In the canyon, excavating for a mine, lived a miner, 49er, and his daughter, Clementine. Oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Light she was and like a fairy, and her shoes were number nine. Carrying boxes without tops, his sandals were for Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine.
Clementine, une chanson célèbre dont j'ignorais d'ailleurs qu'elle était inspirée par la ruée vers l'or des 49ers, on a entendu justement dans cette chanson, dont la plupart n'ont pas fait fortune. On trouvait tellement peu d'or, je crois que l'expression qu'on aurait eu avec ce film, éléphant, c'était on a trouvé l'éléphant, parce que l'or était presque aussi rare, enfin n'exagérons pas, ils en ont trouvé quand même, mais que des éléphants en Californie.
Oui, en fait, c'est l'expression c'était ils ont vu l'éléphant, et c'est une expression qui signifie avoir eu une expérience assez extrême, justement à cause de la difficulté, des dangers, de tous les problèmes qu'ils devaient affronter. Et ça venait d'une histoire selon laquelle un fermier du Middle West avait voulu voir un éléphant. Il avait entendu parler de l'éléphant, il n'en avait jamais vu, il voulait voir. Et un cirque passe pas très loin, donc il se dit « je vais aller voir l'éléphant ». Donc, il charge sa charrette avec ses légumes, les œufs et tout, et il se dirige vers la ville. Et là, il croise le cirque, et les chevaux sont tellement effrayés qu'ils se cabrent et qu'ils renversent la charrette. Et donc, c'est ça l'idée d'avoir vu l'éléphant.
Il y avait à peine plus de femmes, hein. Ça, évidemment, c'est une expédition faite par des hommes, et le manque de femmes était considérable.
Était criant, effectivement. Il y avait des femmes relativement peu, en fait, bien sûr, proportionnellement, parce que c'était à peu près 8% au recensement 1850, et dans les mines, 2%, c'est-à-dire que la plupart restaient quand même plutôt dans les villes, surtout San Francisco. Mais elles sont très très peu nombreuses. Alors on les voit parfois sur des photos ou sur des représentations. Cela dit, assez rapidement, elles viennent aussi parce que elles ne veulent pas être laissées à l'arrière. Et il y en a plus dans les caravanes qui viennent à travers le désert, à travers l'intérieur.
Et ça dans des villes champignons, hein, qu'on met des instant towns, c'est ça, des villes.
Ce qu'on appelle instant town. Oui.
Alors où là vraiment l'insécurité était totale, forcément, puisque les chercheurs sont arrivés plus nombreux et plus vite que la police.
C'est-à-dire que c'est un petit peu la question. Effectivement, il y avait peu de cadres, donc pas de police. La police, de toute façon, préférait aussi éventuellement aller l'armée, aller aussi vers les mines. Donc, il y a là pas mal de mauvais garçons qui sont attirés par le fait qu'il y a beaucoup d'or. Et ça, c'est une des raisons. Et puis aussi, il y a des gens qui s'ennuient ou qui sont déprimés, ils n'ont pas bien trouvé, comme vous l'avez expliqué, ils n'ont pas trouvé d'or. Il y a des violences qui, effectivement, arrivent assez souvent à San Francisco, mais en même temps, ça a été aussi un peu développé un petit peu plus que ça n'était probablement.
Alors en fait, ceux qui en ont profité, c'est pas tellement les chercheurs d'or, ce sont ceux qui ont profité de cette arrivée massive d'immigrants. Alors il y en a un qui était très célèbre, par exemple un fabricant de vêtements, il s'appelait Lévi-Strauss. Le jean est né de cette équipée de la ruée vers l'or et était destiné aux mineurs.
Mais bien sûr, c'est-à-dire il est arrivé, c'est effectivement Lévi-Strauss qui était un immigrant venu de Bavière, et il est arrivé avec l'idée d'aller dans les mines. Et il voulait vendre aux mineurs des tentes, donc avec de la toile. Et il s'est rendu compte que ces mineurs avaient surtout besoin de pantalons, et en plus de pantalons très solides. Pourquoi ? Parce qu'ils mettaient l'or dans leurs poches, et que donc les poches craquaient. Donc d'où les rivets, les fameux rivets. Et c'est là effectivement que vient cette toile bleue qu'on appelle aussi de Nîmes, c'est-à-dire de la ville de Nîmes, et aussi jeans, c'est-à-dire de Gênes. Donc, et c'est de là effectivement qu'est venue cette grande fortune de Lévi-Strauss.
Il y en a eu d'autres qui se sont construites sur la rue vers l'or, Annie Foucrier.
Oui, bien sûr. Il y a eu toute une série de personnages qui sont enrichis. Certains parmi les plus célèbres, ce sont ceux que l'on a appelés les quatre grands. C'est-à-dire Collis Huntington, Mark Hopkins, Leland Stanford, qui ensuite est devenu un gouverneur, et puis Charles Croker, qui est devenu un banquier. Et ce sont les quatre grands de Sacramento qui étaient des quincailliers et qui ont fait fortune, qui ont développé encore plus leur fortune dans le chemin de fer.
Justement, les chemins de fer qui vont se développer grâce à la ruée vers l'or.
Vous êtes du chemin de fer ?
Ça. Descendez les bagages de la dame.
Je mène les équipes de la Centrale Pacifique, je suis chef géomètre.
Mon père a fait la ruée vers l'or. Ma mère aussi.
Allez, on se dépêche.
Quand je suis arrivée ici, bébé, toute la Californie était aussi déserte que ces montagnes.
Vous en trouvez de l'or ?
Un peu. Pas assez. Vous m'aviez caché que c'était aussi beau ici.
Oui, c'est magnifique.
Comment parviendrez-vous à y faire passer le train ? Il faudrait abattre la montagne.
C'est peut-être ce que nous ferons. Il faudra percer un tunnel.
Elle sera percée, ce sera le premier transcontinental d'ailleurs de l'histoire qui a traversé les États-Unis dans les années 1860-70.
Voilà, le dernier, le fameux Golden Spike, c'est-à-dire le dernier, le clou en or de Californie, a été donc posé le 10 mai 1869. Et il y avait ces deux compagnies, il y en avait une qui partait d'Omaha, vers l'ouest et l'autre qui partait de Sacramento vers l'est et qui devait se rencontrer, qui se sont rencontrés donc dans l'Utah, Promontory Point. Et alors ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de travailleurs de l'Union Pacifique qui venaient donc de l'Est étaient des Irlandais. Et beaucoup de ceux qui venaient de l'Ouest, donc pour le Central Pacifique, et eux étaient des Chinois.
Alors, et ces gens-là ont peuplé la Californie, qui était vraiment un désert, enfin, qui était très peu peuplé. Aujourd'hui, c'est le premier État par sa population, par sa richesse, grâce à d'autres choses. L'or ayant disparu, il y a eu ensuite le pétrole, il y a eu l'industrie du cinéma, évidemment. À Hollywood, il y a eu l'informatique, l'aéronautique. Et alors, les États-Unis, l'ouest des États-Unis a été peuplé. Au fond, c'est eux qui ont amorcé la pompe. Mais vous le rappelez aussi dans un livre, Annie Foucrier, dans votre livre, c'est que les conséquences de cette ruée vers l'or a été au-delà des États-Unis. C'est vraiment, ça a eu des effets dans le monde. Ça a créé, ce que vous dites, une très jolie expression, une utopie réaliste.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la Californie s'est retrouvée parce qu'il y avait, devenu très cosmopolite, il y avait tous ces personnes qui sont venues et qui ensuite sont reparties. Et en même temps, ça a été pour eux une expérience très particulière. C'est-à-dire qu'ils sont partis souvent, ils étaient assez jeunes, ils ont été obligés d'affronter des quantités des difficultés. Et en même temps, ils se sont retrouvés dans une société qui était vraiment neuve. C'est-à-dire que les anciennes hiérarchies, en particulier celles de l'Europe, n'existaient plus. Donc, ceux qui arrivaient là devaient faire confiance seulement à eux-mêmes. S'ils étaient auparavant des nobles et qui avaient leur place dans les sociétés très hiérarchisées d'Europe, là, ça ne comptait plus. Donc, c'est justement en ça que c'est une utopie.
Un monde à l'envers, dites-vous.
Et un monde
à l'envers. Les hiérarchies renversées.
Oui, absolument. Il y a cette idée que tout, on peut devenir riche sur un coup de chance et pauvre sur un coup de tête. C'est-à-dire que, en fait, toutes les hiérarchies sont bousculées. Chacun ne fait sa vie. Celui que vous voyez qui a l'air d'être habillé comme un pauvre, en fait, il est peut-être, c'était peut-être quelqu'un qui venait de l'Est et qui avait une très grande culture, ou il est peut-être très riche parce qu'il a justement trouvé beaucoup d'or. Et donc, on ne peut pas se fier à l'aspect. Tout est complètement bouleversé. C'est une société qui est complètement. C'est aussi un petit peu cette expression que l'on prête à Mark Twain et qu'il a dit comme
là, qui a participé
d'autres.
D'ailleurs
il a vécu
dans le Nevada, je crois,
voilà, ouais. et surtout il a donné l'image, une image. Il a contribué à créer l'image de cette ruée vers l'or, en particulier bon avec la fameuse grenouille sauteuse de Calaveras County.
Et la fameuse, moi je la connais pas.
Ah, c'est une histoire, c'était à Angel's Camp, et c'est une compétition entre une course de grenouilles. Et donc, les gens font une course de grenouilles, et en fait, il y a un truc, c'est-à-dire qu'il y en a un qui essaye, qui drogue en quelque sorte la grenouille d'un autre pour gagner. Enfin, donc, c'est un atout commercial. Mais il a dit que l'hiver le plus froid qu'il avait connu, c'était un été à San Francisco. Bien, c'est un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que tout ce que l'on pouvait avoir comme idée auparavant, ben c'est bousculé. C'est un monde qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître.
Oui, mais un monde dans lequel l'or a disparu. Qu'est-ce qui reste de cette épopée aujourd'hui en Californie, à part le nom du pont, du Golden Gate, le fait que la Californie, le surnom, je crois, s'appelle le Golden State. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les 49ers, hein, aussi.
Et les 49ers, c'est-à-dire l'équipe de football, effectivement. Il y a aussi il y a des restes, même d'un point de vue écologique. C'était une catastrophe d'un point de vue écologique, en fait. C'est-à-dire que, et oui, parce que on a complètement détruit ces collines pour en retirer l'or. Et en particulier, on voit encore, il suffit, si vous allez un jour du côté de Mokelumne Hill, qui est où il y avait énormément de Français, on voit encore des énormes trous, des creux. On voit aussi des espèces de petites buttes qui se correspondent au gravier qui était rejeté.
Ah ben. Merci Annick Foucrier. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Le rêve californien, migrant français sur la côte du Pacifique, publié aux éditions Belin, et puis aussi tout récemment, en train de sortir chez Gallimard Jeunesse, chez les Indiens d'Amérique, est un livre pour adolescents. À lire également Go West, une histoire de l'Ouest américain d'hier à aujourd'hui, de Philippe Jacquin et Daniel Royaux aux éditions Champflammarion, et un très beau livre, L'or, mythe et objet, de Hans-Gerd Bachmann aux éditions Citadel et Masno. Vous avez pu entendre des extraits de Rédemption de Michael Winterbottom, disponible en DVD aux éditions Fox Pathé Europa, et Cro-Blanc de Randall Kaiser, un DVD Walt Disney. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Bernard Quentin, Laurent Groux, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, notre réalisatrice Anne Kobylak, et aussi à tous ceux qui sont venus nous écouter dans ce hall au Grain de Blois. Merci beaucoup.
Merci Patrick Delillet.